Bonjour à tous. Des Libanais, un peuple, un mois jour pour jour après le début de la contestation qui donne à voir et à entendre un peuple libanais uni et solidaire, malgré les différences et l'équilibre confessionnel sur lequel le pays s'est reconstruit au lendemain de la guerre civile. Quel avenir pour la contestation? Elle rentre du Liban, d'où elle est originaire. L'essayiste Dominique Edé est aujourd'hui l'invité de la grande table des idées. Mais d'abord, la part sauvage de Claudie Hunzinger. L'écrivaine, artiste plasticienne, vient de recevoir le prix décembre pour son nouveau roman Les Grands Cerfs, publié chez Grasset, une exploration sensible du réel qui nous entoure. Elle fait chanter sa flûte enchantée. Claudie Hunzinger est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
C'est l'automne, il est là, avec son brame, le cerf, le grand cerf, un cri, ou plutôt un chant envoûtant. Bonjour Claudie Hunzinger.
Bonjour.
Que ressentez-vous quand vous entendez cela?
Il me semble, à les entendre, que ce sont des portes qui s'ouvrent. Des portes, des murailles. Peut-être les murailles du songe, mais aussi celles de la sauvagerie, des murailles minérales, qui s'ouvrent sur leur présence, celle des cerfs.
Ici, le brame du cerf en forêt de Troncay, dans l'Allier, tandis que votre roman a la forêt des Vosges comme décor. On a dit non ensemble, lui et moi, double de l'auteur. Votre héroïne, Pamina, vit avec son compagnon Nils dans la ferme des Hautes Huttes, dans un exil du temps, écrivez-vous, exil sacré à nos yeux. Ces mots sont donc de vous, et le roman permet cela, on le comprend très vite. Il permet de se mettre en retrait, ici, pour communier avec la nature, communier avec ceux qui nous entourent, l'écriture. Et pour vous, Claudie Hunzinger, une terre d'exil.
Est-ce que l'écriture est une terre d'exil? L'écriture elle-même, si l'écriture est une émanation de mon propre corps, oui, dans ce cas, oui. Et l'écriture est aussi une façon pour moi de parler, de rendre compte de mes impressions, de mes sensations, moi qui vis en effet dans un territoire retranché, dans une sorte, peut-être pas d'exil, mais de cache profonde, de cachette, où nous avons été rejoints dès le départ par les cerfs, parce que nous vivons à un étage très particulier de la montagne, qui n'est ni celui des villages, ni celui des fermes, presque celui des forêts, juste en lisière, entre ces deux mondes. Alors l'écriture, elle est pour moi une... quelque chose qui naît d'une impression très profonde et de sensation et d'une emprise, d'un magnétisme du réel sur moi. Donc, évidemment, je parle de ceux qui m'entourent, les cerfs.
Les grands cerfs, extrait de ce nouveau roman qui paraît chez Grasset. J'avais alors rassemblé des livres sur ces êtres qui savent se rendre invisibles à deux doigts de nous, hyper réveillés quand nous dormons, dont l'odorat infinitésimal est super puissant et surpuissant, dont l'ouïe capte les plus lointaines menaces, dont la masse de muscles et d'os se nourrit de frêles pousses d'érable et de châtaigniers, de fleurs et de graminées délicates comme la flouve et le brome, puis l'hiver venu de ronces, de lierres, de houx ou encore de lichens, de bruyères, de mousses, et qui porte sur la tête une architecture de branches aussi haute qu'une et large qu'une coiffe de grand chef indien. Même si d'un côté il s'agit d'une ramure d'os et de l'autre d'une parure de plumes d'aigle, la même souveraineté reliée au cosmos y semble à l'œuvre. Pamina, votre héroïne, nous emmène avec elle au cœur du règne animal, la magie de l'inconnu, la découverte de cet autre qui n'est pas si différent de soi. La rencontre, elle se fait à travers le cerf. Wow, si je le prononce bien,
wow.
Ce tonnerre de beauté, écrivez-vous, qui va déclencher en elle le désir de prendre la clé, non pas des champs, mais celle de la forêt. Quelle porte va d'ailleurs ouvrir, Claudie Hunzinger, la clé que Léo, photographe animalier, ouvrier papetier, va lui confier à Pamina?
Oui, tout commence par la rencontre avec ce tonnerre de beauté, et peut-être de bonté, que wow. dont le nom est presque une onomatopée de son propre cri, de son aboi. Wow! Donc tout commence par cette rencontre, cette presque collision avec Wow, et tout commence 10 ans auparavant avec une petite clé que lui a confiée un photographe animalier qui avait construit un affût sur leur territoire pour pouvoir observer les cerfs. Et cette petite clé, elle n'y a pas touché pendant 10 ans. Et c'est après cette presque collision avec ce tonnerre de beauté que Pamina décide de s'approcher de ce qui l'entoure depuis presque 10 ans, mais de loin. Et elle voit, soudain, elle se dit, mais ils sont si proches et je sais que Léo, elle les connaît, les différencie. Je sais que Léo, le photographe, les nomme même et les reconnaît à une balafrure et surtout à l'architecture de leur couronne. Épois par épois, il sait les distinguer. Et moi, qui vis au milieu d'eux, et moi qui ai vécu 8 ans de suite auprès d'un cerf qui vivait là, à 50 mètres sans que je l'aperçoive, moi qui vivais au milieu de ces invisibles, je n'en sais presque rien. Et c'est comme ça que Léo a initié Pamina à l'art de l'affût.
Et ce cerf, il vous a vu ?
Ah, il m'est arrivé, oui, que les cerfs, bien sûr, bien plus souvent que je ne le pense.
Vous voit ?
Nous voit, ouais. Nous observe. Nous sommes observés par eux. Bien plus souvent que nous ne les observons. Ils sont là autour de nous, ils savent tout de nous et ils se glissent.
Et mais ils vous ont accepté ? Ils vous ont toléré ?
Voilà, c'est exactement ça le mot. Le mot c'est « nous sommes tolérés ». En presque 30 ans, 40 ans, je pourrais même monter à 50 ans de vie, pour laquelle nous avons choisi comme concept de vie l'immobilité, comme concept d'aventure. L'immobilité, sur place, n'avons pas bougé. Mais nous avons observé le monde autour de nous. Nous, parfois, nous contentons simplement de savoir que ce clan de cerfs nous entourait sans en savoir davantage. Donc, oui, nous sommes observés, nous sommes tolérés. Francis, mon compagnon, peut bûcheronner. Il peut faire son bois sans que les cerfs, remisés un peu plus bas, ne se lèvent. Et moi, il m'est arrivé aussi de m'approcher d'un cerf, dans le dos, très doucement, qui ne m'avait pas senti, de m'asseoir et de l'observer.
Francis, c'est Nils dans le roman, Pamina, c'est vous, et Léo, au début en tout cas de ce roman, il nous fait penser un peu au photographe animalier Vincent Munier, qui vient des Vosges lui aussi. Cette clé que Léo donne à Pamina dans le roman, c'est peut-être tout simplement la clé de l'émerveillement.
Des animaux m'ont fait rêver dans les livres. Et j'ai qu'une envie, c'est de provoquer cette rencontre. Essayer de vivre à leur rythme, tout près d'eux. D'être à leur côté. J'ai commencé dans la forêt à côté de chez moi. Après les chevreuils, c'était les renards, c'était les sangliers, c'était le brame du cerf, c'était des nuits passées sous des sapins au mois d'avril pour le grand tétras. Juste pour l'observer, même pas le photographier. La photographie vient après.
C'était ça, cette clé, celle de l'émerveillement. Et ce que vous avez pu découvrir dans cette cabane, c'est ce moment d'attente, ce temps suspendu, cet affût qui éveille tous les sens.
Oui, j'ai commencé par la cabane d'affût, pensant que c'était le lieu qu'avait construit Léo, le photographe animalier. Mais vite, je me suis aperçue qu'il ne fallait pas se contenter de rester dans une cabane, qu'il fallait déjà connaître tout des habitudes de ce clan de cerfs qui nous entourait, connaître leur trajectoire, connaître leur remise, leur zone de repos. Et c'est après tout ce travail déjà d'observation et de notes sur un carnet qu'on se poste très tôt le matin, on se lève à 4 heures pour être sur place à 5 heures, avant que le jour ne se lève, simplement entortillé d'un filet de camouflage et en contact direct avec les éléments. Et de préférence en contact direct avec la pluie, avec la neige, avec la tempête, avec l'orage. Parce que c'est par mauvais temps que les non-humains, comme j'appelle les cerfs, sortent pour éviter les humains qui ne sortent pas.
Humain non humain, vous les nommez à la manière de Philippe Descola, l'anthropologue dont vous avez visiblement beaucoup lu les ouvrages, les essais, et communié là encore avec sa manière aussi de revenir sur cette distinction entre nature et culture. On va y revenir, Claudie Hunsinger, juste pour comprendre ce qui se joue aussi dans les têtes, dans votre tête, dans votre esprit, dans ce moment d'affût, dans ce temps qui est suspendu. Vous arrivez à faire le vide de tout ?
Voilà, tout est là. Tout est là. Je suis passée par différents états. Dans ces moments d'affût, d'attente, parfois d'attente pour rien. Puis tout à coup, l'apparition est là et la beauté est là, qui se présente. Je suis passée par un premier sentiment qui était presque négatif, un sentiment d'effroi. Parce que quand je suis planquée comme ça, dans la nuit, et que j'attends, et que j'entends arriver une voiture, un pick-up, et ce pick-up, je sais qu'il peut être aussi bien celui d'un braconnier que celui d'un chasseur, que celui d'un garde-chasse. Moi, qui m'avance dans la nuit, absolument sans technologie, au contraire des photographes, justement, au contraire des photographes animaliers, je n'ai rien comme technologie, je n'ai ni lampe frontale, je n'ai ni portable, je n'ai pas autour de moi une équipe. Je suis absolument seule dans la nuit, sans rien. Et quand j'entends une voiture ou un pick-up qui s'approche, la première chose que je fais, c'est sauter dans le talus et me cacher. À ce moment-là, il m'est arrivé, sautant dans le talus, me cachant, de me trouver nez à nez avec un lièvre ou avec un renard qui fuit, qui me fuit, qui me lâche. Et c'est là que je m'aperçois que moi, qui aimerais tant rejoindre le bord des non-humains, des animaux, je sème l'effroi. Et je suis renvoyée à mon genre humain. Ça, c'est d'un. Puis de deux, quand je continue comme ça dans la nuit, à m'avancer, en guettant les bruits, pour rejoindre mon affût, et de deux, je m'aperçois que je suis sur un incessant qui-vive. Et que, sans rien, justement autour de moi, juste ce filet ou mon vêtement, je suis soudain et je me sens incroyablement et incommensurablement du côté des bêtes, du côté des proies. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce qui me séparait justement d'un Vincent Munier dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est que d'être sans rien du tout, avec la peur, reléguée dans la nuit, repoussée dans la nuit du côté des bêtes, on est du même bord. Et là, j'ai senti que le féminin et l'animal allaient ensemble. Et que c'était un privilège. Ça, c'est le deuxième temps. Et parfois, il arrive, quand on dépasse ce presque bon qui nous permet de rejoindre le bord des non-humains, sans y arriver parce qu'il nous fuit de toute façon, même s'il nous tolère, il peut arriver qu'on se dise, eh bien voilà, laisse tout tomber. Écoute seulement, ne cherche pas de sens, n'ajoute pas de sens au monde, ne cherche pas à comprendre. Sois à l'affût juste de l'imperceptible, comme dirait Deleuze, du devenir imperceptible. Et n'ajoute au monde que ta présence au monde et son éblouissement.
C'est une manière de toucher la magnificence de ce monde qu'on a perdu de vue à travers ce dénuement. Il y a cet abandon de soi que vous venez de raconter, Claudie Hunsinger. Comme les bêtes, nous devons tout lâcher, écrivez-vous, simplement, sans au-delà, c'est obligé. Qu'est-ce qui vous fascine aussi dans la métamorphose de ce monde animal, au rythme des saisons, au rythme de ce qui nous entoure? On entendait tout à l'heure en ouverture le brame du cerf, plutôt à l'automne. On vous racontait notamment la mue des cerfs au moment du printemps. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette quête et cette métamorphose animale ?
Oui, en effet, les cerfs ne sont pas des carnivores. Les cerfs sont des herbivores, ce sont des grands contemplatifs. Ils passent leur journée à herboriser et à manger, tout en marchant. Ils broutent, ils choisissent. Et puis La nuit venue, ils se remisent et ils remâchent tout ce qu'ils ont vécu. Il y a déjà ça, c'est un peuple et un clan. Oui, il faut peut-être préciser que le lieu où je vis est le lieu où habite également, nous a fait l'honneur d'habiter, tout un clan de cerfs, des célibataires seulement, des mâles, de 8 à 12, parfois de 12 à 22 individus, qui habitent chez nous 8 mois sur 12. Et que le brame que vous avez évoqué, ce sont les 2 mois de combat, de lutte pour la survie, les 2 mois où on lutte pour avoir chaque cerf le plus de femelles possible, absolument comme dans l'Iliade. Voilà, c'est un combat de chef. 2 mois seulement. Le reste du temps, les cerfs qui habitent autour de nous, ce sont des contemplatifs, mais pas seulement. Ce qu'ils ont d'absolument fabuleux, et qui fait que, hier déjà, dans une rencontre avec des lecteurs, ou avant-hier, ou la semaine d'avant, il m'est arrivé de rencontrer des lecteurs qui sont venus vers moi, et qui ont fondu en larmes, en me racontant leur rencontre avec un cerf. Alors pourquoi un cerf peut-il faire fondre en larmes un monsieur en par-dessus? Et qui se souvient de cela de 10 ans auparavant? Eh bien, je pense que c'est parce que les cerfs nous viennent déjà tout droit de la préhistoire, qu'ils ont assisté à la naissance de l'humanité, qu'ils ont gardé de cette préhistoire, je crois, quelque chose d'absolument fabuleux qui est cette ramure. C'est quelque chose d'absolument fantastique, de démesuré, qui nous parle de la naissance du monde, qui porte presque 30 000 ans de temps. Parce que les cerfs que nous croisons, ce sont les mêmes cerfs que ceux de Lascaux. 5 cerfs nageant dans la brume, aux parois de Lascaux. Ou 5 cerfs nageant dans la brume d'une prairie qu'on peut voir venir vers vous. Ou alors un cerf qui soudain s'arrête sur une route et regarde dans les yeux, un homme qui s'est arrêté et qui est descendu de sa voiture. Et je pense que c'est ce face-à-face avec un être contemplatif qu'on sent vraiment 10 mois sur 12, quelqu'un qui est branché par ses bois sur un autre espace. Et moi souvent j'ai pensé, au départ je pensais que ces ramures étaient branchées sur un espace transcendant, mais pas du tout. Je pense que les cerfs nous désignent ce qui se passe ici, ici-bas. Et quand je parle de là où j'habite, d'ici, ça m'a l'air d'être pour les lecteurs ou pour les gens à qui je parle, quelque chose d'aussi lointain qu'une autre galaxie. Comme si ici était devenu aussi lointain qu'une galaxie.
On se rapproche tout doucement avec vous, Claudie Hunsinger. Les grands cerfs, votre roman paru chez Grasset, vous y racontez aussi le retour des oiseaux. Et là, forcément, on y voit un clin d'œil à Rameau. Thank you. La suite en mi majeur de Jean-Philippe Rameau par Alexandre Tarot, extraite de son dernier album Versailles de Alexandre Tarot, sorti le 15 novembre, c'est-à-dire cette semaine. Rameau qui rendait hommage ici avec ce rappel à sa Provence quand il vivait en Avignon. Le mot rappel qui nous évoque aussi l'oiseleur, c'est Papageno dans La Flûte Enchantée. Ici, Pamina, c'est un peu vous, Claudie Hutzinger, dans ce roman Les Grands Cerfs. Si vous sortiez votre flûte comme l'oiseleur pour rappeler ces oiseaux, qui rappelleriez-vous?
Si j'avais à rappeler des oiseaux, oh, en premier, ce sont les chardonnerets. Parce qu'ils sont en bande et qu'ils sont d'une vivacité, d'une allégresse. Je crois que c'est exactement cette allégresse ponctuée, parfois qui apparaît, qui disparaît, qui revient très vite, que j'observe avec le plus d'acuité. Parce que je sais bien que mon problème le plus difficile, c'est d'arriver à parler de la catastrophe du monde et de la noirceur qui se prépare, que nous avons engendré, nous, l'espèce humaine, tout en parlant de la joie qui fait l'essence même de ma vie. Alors comment concilier à la fois la catastrophe, comment concilier la joie de ce qui est présent et qui sans cesse se manifeste, que j'appelle aussi la bigarrure du monde. Voilà, alors je crois qu'il faut écouter les oiseaux. Et les oiseaux nous disent enjoy deeply the very little things. Régis-toi profondément des toutes petites choses.
D'ailleurs, c'est un roman, un livre qui oscille entre ces deux positions, entre l'émerveillement et la crainte de la catastrophe à venir. Les grands cerfs disparaissaient un à un, écrivez-vous, et le massif subissait de si profondes modifications que, oui, en clair, c'était perdu. Et par la faute de l'ONF, a précisé Léo, l'ONF est un pouvoir d'État qui mène une politique d'État aveugle, un marché régi par l'intérêt. Alors comment fait-on, écrivez-vous ailleurs, quand on veut écrire le roman du réel aujourd'hui, quand on veut l'aborder frontalement cette question? Vous ne l'avez pas totalement résolue, mais vous essayez à travers cette écriture de ce que vous avez pu observer. D'ailleurs, le roman, on ne l'a pas dit, s'ouvre quand la narratrice apprend la mort de l'activiste amérindien Dennis Banks, alors que vous êtes en signature de votre dernier livre. Comment vous avez conçu en fait celui-ci, comme un roman réellement coup de poing?
Je l'ai conçu au départ sans m'en rendre compte. J'avais la tête tout à fait ailleurs et j'avais l'intention d'écrire un livre sur mon père. Mais les événements sous mes yeux, que j'observais et dont je prenais note, se sont accélérés et se sont construits eux-mêmes avec une sorte de narration dont la menace s'amplifiait et avec un suspense. Et je me suis rendu compte que ce qui se passait sous les yeux, tout en ayant la tête ailleurs, eh bien non. C'était là qu'il fallait que je reste, ce qui arrivait sous mes yeux, c'est-à-dire le roman de notre époque, et que je n'avais plus à aller fouiller les entrailles de ma famille et du passé, mais qu'il fallait que je m'inquiète et que je fasse résonner ce que j'entendais, ce que je voyais avec notre époque, avec ce que j'appelle la défaite de notre monde. Voilà, c'est comme ça que ça s'est construit, au fur et à mesure.
Voilà, c'est le passage de l'émerveillement aussi à la colère comme un cri d'alerte qui est le vôtre, Claudie Hutzinger. Par-delà nature et culture, l'anthropologue français Philippe Descola, professeur au Collège de France, en appelle, lui, à la fin de cette différence artificielle, à repenser notre civilisation autrement.
La nature est une invention de l'Occident, mais la société aussi est une invention de l'Occident. Ailleurs, la manière dont des humains s'assemblent, et s'assemblent avec d'autres êtres qui sont des non-humains, prend une forme tout à fait différente. Et donc la plupart des concepts que nous avons développés sont des concepts eurocentrés, anthropocentrés, et le travail que l'anthropologie doit mener, que les sciences sociales doivent mener, consiste précisément à forger des nouveaux concepts qui échappent à la fois à la juridiction de la nature et à la juridiction de la culture.
Voilà, et votre roman, avez-vous dit, est aussi un livre anti-colonial contre cette colonisation des non-humains par les humains. On l'entend. Vous écrivez ces mots qui sont assez surprenants. Le délice que vous avez éprouvé le délice de ne pas vous sentir assigné à résidence dans le genre humain, mais de vous en affranchir pour vous élargir. C'est vertigineux quand même, comme optique, comme sensation, plus que délicieux, non ?
Non, c'est absolument délicieux, tout en étant vertigineux, mais le vertige peut être délicieux. Bien sûr, mais ceci vient aussi d'une très longue pratique, d'une accoutumance. Je vis à la lisière de la forêt depuis 50 ans, et quelque chose se produit, on quitte très vite quand on est seul. On quitte sa propre personne. On devient ce qu'on voit. On devient ce qu'on entend. Et ces frontières, en effet, entre nature et culture, entre humain et non-humain, elles tombent toutes seules, très naturellement. Et on pourrait se demander pourquoi Pamina, qui a de 3000 à 5000 livres chez elle dans cette métairie, pourquoi éprouve-t-elle le besoin de sortir et d'aller approcher les cerfs, et pourquoi est-elle cette fascination pour les cerfs et les contempler? Et je pense que toute la différence est là aussi, c'est que Léo, le photographe animalier, il lui a semblé qu'il avait justement, d'une certaine façon, trahi le bord des bêtes. Il avait été obligé d'une certaine manière, pour pouvoir continuer à faire ses photos, à faire pacte avec l'ONF et avec les chasseurs. Alors que elle, Pamina, libre.
Et elle le restera. C'est un roman, on l'a entendu, travaillé par cette conscience de la perte, travailler aussi par l'envie de soulever les consciences, Claudie Hunsinger, mais aussi empreint de poésie, et vous y convoquez d'ailleurs dans ce roman tous ces poètes qui vous sont chers, de Rilke à Rimbaud, en passant par Pasolini ou Claude Simon. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous autour de cette grande table. Les Grands Cerfs, prix décembre, apparu à la rentrée aux éditions Grasset. Merci Claudie Hunsinger.
Merci à vous.
Merci.